Julien Pierre Nouan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et stratégiste chez Lazard Frères Gestion. On va revenir avec vous sur la stratégie d'investissement et puis les perspectives économiques. Peut-être commençons par le canevas économique, si vous voulez bien. On en est où, je dirais, sur les principales économies? Est-ce que les États-Unis ont plutôt, de votre point de vue, confirmé leur la reprise économique?
Nous le pensons, en fait, lorsqu'on regarde les statistiques économiques américaines, on avait eu ce premier trimestre qui a été caractérisé par une contraction de l'activité qui est très surprenante lorsqu'on regarde tous les autres indicateurs économiques. Cette surprise, finalement, on a vu que ça n'était qu'un accident, puisque dès le deuxième trimestre, l'économie américaine a réaccéléré assez nettement et les indicateurs restent au vert.
Alors, l'économie américaine, on attend peut-être encore plus de création d'emplois. Il y a néanmoins un débat au sein même de la Réserve fédérale américaine sur la politique monétaire.
Oui, vous avez le camp des colombes qui pense que la politique monétaire américaine doit encore supporter l'activité, et les faucons qui pensent qu'il faut commencer à songer à remonter les taux. Lorsque nous regardons l'état du marché du travail américain, on voit effectivement, comme la Fed, certains indicateurs qui ne sont pas encore revenus à un niveau cohérent avec une très bonne santé du marché de l'emploi. Mais pour nous, la tendance reste quand même à l'amélioration. Les créations d'emplois sont fortes, permettent une baisse rapide du taux de chômage. On pense donc que la Réserve fédérale devrait être amenée à remonter ses taux sans doute dès le deuxième trimestre 2015.
Quand on entend ou que certains disent que les banquiers centraux ne veulent pas surprendre quelque part les investisseurs, est-ce que c'est aussi votre point de vue, c'est-à-dire que cette espèce de pilotage des marchés?
Oui, c'est le cas. Lorsque vous regardez les discours de Janet Yellen, on voit un glissement progressif avec jusqu'à la fin du printemps des discours qui étaient assez colombes, justement. Et depuis son discours de Jackson Hole, la prise en compte de l'amélioration rapide du marché du travail, plus rapide que ce que la Réserve fédérale anticipait, et qui donc pourrait amener la Réserve fédérale à remonter ses taux plus rapidement que ce qui est actuellement anticipé par les marchés.
Alors on sait que la Réserve fédérale va retirer ses liquidités au mois d'octobre, enfin effectivement ce montant de liquidité. Est-ce que ça peut pas avoir un impact, même si le marché le sait, ce qui va se passer en octobre, et le marché le sait?
Alors, l'impact de la fin des achats de titres pour nous devrait être négligeable parce que c'est totalement intégré dans les marchés. Ce qui jouera davantage, ce seront justement les remontées de taux et donc leur impact sur le niveau des taux d'intérêt qui donc aux États-Unis devrait remonter dans les prochains mois.
En Europe, on n'est pas dans cette situation-là pour l'instant, loin de là. On a vu la Banque centrale effectivement européenne peut-être surprendre avec cette baisse de taux. Quelle analyse vous faites de la situation en zone euro?
Pour nous, la zone euro rentre dans une phase qui devrait être plus favorable, notamment par ce qui a été fait par la BCE qui se surajoute au changement de politique de la Réserve fédérale aux États-Unis. On le disait souvent, la clé de ce qui se passe en Europe est peut-être du côté américain, avec notamment l'impact sur la parité euro-dollar. On avait vu un euro-dollar qui avait tutoyé les 1,40 au début de l'année et qui est maintenant passé sous les 1,30. Pour nous, c'est quelque chose de très positif pour l'économie européenne. C'est un mouvement qui va se poursuivre et qui donc va permettre de redonner du dynamisme au niveau de la zone euro. Les actions de la BCE également devraient permettre de soutenir la création de crédit à un moment où les banques sont plus prêtes à prêter lorsqu'on regarde les enquêtes sur les conditions d'octroi de crédit. Et sur le plan budgétaire, on sent qu'on voudrait trouver un mix plus favorable à la croissance tout en respectant les limites des traités.
Alors, ça pourrait éviter les sujets de déflation, ou en tout cas que la déflation devienne un vrai sujet de crainte, cette parité, cette évolution de la parité, si elle se confirmait?
Oui, la baisse de la devise a toujours des effets qui vont pousser l'inflation à la hausse. Et lorsque nous regardons l'inflation hors alimentation et énergie, ce que nous constatons, c'est qu'elle s'est en fait stabilisée sur un rythme de progression d'autour légèrement inférieur à 1%, ce qui était notre scénario de début d'année. Et on pense qu'elle va continuer à le faire, mais qu'on aura toujours au sein de la zone euro cette très grande divergence entre le cœur de la zone euro où l'inflation s'est stabilisée et devrait progresser notamment en Allemagne du fait de la progression des salaires et les pays périphériques qui ont fait de très importants ajustements et où les prix relatifs baissent.
Du côté des pays émergents, là, il y a eu peut-être des inquiétudes quand on regarde ce qui s'est passé au Brésil, tombé en récession. On parlait il y a encore quelques mois de cette croissance des pays émergents. On voit qu'il peut y avoir aussi ce type d'accident. Comment vous abordez ces pays-là?
Avec beaucoup de sélectivité. On voit effectivement des pays qui étaient dans une situation très favorable se retrouver confrontés à des situations économiques délicates. parce que on a, pour le cas du Brésil, des réformes qui n'ont pas forcément été faites et un investissement qui n'était pas au rendez-vous pour résoudre le problème des infrastructures. Et de notre côté, vous avez la sphère asiatique qui, elle, se porte mieux. Et c'est pour ça qu'on regarde cette classe avec cet ensemble de pays avec beaucoup de sélectivité.
On pourrait dire aussi qu'il y a eu là, alors si on prend le cas du Japon par exemple, on a vu l'impact de la hausse de TVA. C'est vrai qu'il y avait certains économistes, certains même stratèges qui regardaient ça avec prudence. On voit l'impact que ça peut avoir. Est-ce que ça reste, c'est pas un nouveau risque sur le Japon ?
Nous pensons que la hausse de la TVA effectivement a eu un impact. On le voit dans les chiffres des derniers mois. Ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est que les dernières statistiques sur les salaires montrent une accélération des salaires. Donc on est sans doute encore dans la phase d'absorption de la hausse de TVA, mais si cette accélération des salaires se poursuit, ça validera le pari de la Benomics et donc ça devrait amener la croissance au Japon à réaccélérer.
Quand on regarde donc ces différents marchés, on sait que les actions américaines notamment avaient largement surperformé. Sur la partie action, quelles sont un peu les grandes lignes des investissements ?
Alors pour nous, on a encore une croissance mondiale qui devrait rester tout à fait correcte, entre 3 et 3,5% en tendance, qui supporte les profits des actions. Donc on reste très positif sur toute la classe d'actifs actions. On pense qu'en revanche, les effets de devises vont être importants. Et ce qu'on a pu constater par le passé, c'est que les phases de forte dépréciation de l'euro et surtout d'appréciation du dollar sont plutôt positives aux actions européennes. Et ça arrive à un moment où en plus les entreprises européennes ont encore beaucoup de leviers opérationnels car elles sont en retard au niveau de la restauration de leurs marges. Et donc ça devrait soutenir très nettement les profits des entreprises européennes.
Donc on aura quelque part cette croissance des profits qui justifiera les valorisations.
Voilà, c'est vrai que jusqu'à présent on a eu une normalisation des valorisations, il n'y a plus grand chose à attendre à ce niveau-là. Maintenant la croissance des indices actions doit provenir de la croissance des résultats et on pense que la conjoncture se met en place pour observer cette croissance des résultats.
Le mot de la fin sur la partie obligataire, on peut pas ne pas être surpris par ce qui s'est passé à la fois en début d'année et puis même cet été sur les marchés obligataires, ça a surpris beaucoup d'investisseurs. Quelle est aujourd'hui quelle est la tactique finalement sur ces marchés ?
Alors pour nous, ce qui sera déterminant, ce sera le fait que la Banque centrale américaine va remonter ses taux. Ça devrait amener donc une remontée des taux longs américains également, et par effet de contagion, une remontée des taux longs un peu partout, d'autant qu'on pense que les inquiétudes de déflation dans la zone euro sont sans doute excessives et devraient se résorber l'année prochaine.
Donc avec peut-être des arbitrages sur les différentes classes d'actifs, notamment le high yield, on a vu des soucis cet été.
Oui. Nous pensons en fait que effectivement le haut rendement a toujours un intérêt en termes de portage de spread, mais par contre dans nos allocations nous privilégions maintenant le crédit subordonné financier qui bénéficie en fait d'un contexte de deleveraging des banques, donc de réduction du risque bancaire qui se poursuit et notamment avec la QR dont on aura bientôt les résultats.